Mekes sepastil.
Oh, mekes qui se passe.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 24 avril, vous êtes bien sur Escapade. On commence sans plus tarder par un rendez-vous ce 1er mai, puisque le Rassemblement National donne un meeting à l'Arena de Narbonne, en présence de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Eh bien, de nombreuses organisations syndicales, associatives ou politiques appellent à une manifestation unitaire et à un village antifasciste, le jour même dans la sous-préfecture de l'Aude. C'est dans ce département où le Rassemblement National a fait carton plein en élisant 3 députés aux dernières législatives, donc, que le parti de Marine Le Pen a choisi d'organiser son grand meeting du 1er mai. Face à la venue de cette formation d'extrême droite, des organisations syndicales, associatives et politiques qui se sont réunies sous le nom du collectif 1er mai ont décidé de déposer donc en préfecture une manifestation syndicale unitaire. Le départ de celle-ci se fera à 11h de la sous-préfecture donc de Narbonne, puis de 13h à 18h, donc le village associatif, le village antifasciste, se tiendra entre la médiathèque et la Bourse du Travail, au programme des conférences-débats avec Benoît Test, l'ancien secrétaire général du syndicat FSU, Philippe Poutou, ancien candidat à l'élection présidentielle, ou Yuli Mamamoto, du collectif féministe Les Rosies. Les sujets seront explorés comme par exemple la gestion des villes par l'extrême droite avec des bilans financiers, le programme socio-économique et culturel du Rassemblement National et également la vision de la situation internationale. Une vingtaine de stands seront en plus présents avec entre autres les collectifs par exemple TCEDEC, Greenpeace, l'Atelier Paysan ou la Ligue des Droits de l'Homme et bien d'autres. Et en après-midi, il y aura aussi, par exemple, de la musique avec des concerts, de l'électro, du ska-punk, des chants occitans. Il y en aura pour tous les goûts, buvettes et restaurations sur place. Ce grand rendez-vous donc régional, c'est à Narbonne ce 1er mai et ça commence à 11h donc devant la préfecture. On va parler maintenant de l'avenir de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole du Languedoc, programme en effet une optimisation de sa présence sur ces territoires en s'appuyant sur des lieux mutualisés, partagés et donc a priori un recul de l'accueil et des services accessibles en physique. Le syndicat CGT est vent debout donc contre la fermeture de ces agences et il le fait savoir dans un communiqué envoyé à la presse donc ces jours-ci. La question, donc, c'est que va-t-il advenir de ces agences locales du MSA et pour quelle raison le principe de proximité est-il remis en cause par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc? En tout cas, si cela venait à se confirmer, est-ce que des agences locales viendraient à disparaître, comme par exemple pour ce qui est du Gard à Bagnoles, à Beaucaire ou à Vauvert, et avec en ligne de fond en plus l'avenir des arrière-pays, notamment pour les zones de montagne et l'arrière-pays, ce qui nous concerne nous plus directement, avec des villes comme Le Vigan ou Saint-Hippolyte-du-Fort, qui sont déjà privées de services publics. Ce phénomène de régression continue la CGT ressemble étrangement à celui connu par La Poste, qui supprime progressivement les bureaux dans les villages et même dans les quartiers urbains. Suppression également des boîtes à lettres postales, qui exigent des déplacements longs et chers pour la population. Le malaise actuel du monde agricole ne doit pas être accentué par des mesures de régression sociale. C'est ce que scande donc ce communiqué. La CGT constate que la MSA ne se préoccupe pas du tout de l'impact social qui serait entraîné par le retrait de ses agences sur le terrain et rappelle justement que la MSA a été créée pour répondre aux besoins spécifiques de la population agricole en offrant une prise en charge globale de la naissance à la mort grâce à une présence sur tout le territoire. Et c'est sûr que de mettre des antennes en ville pour le secteur agricole, c'est peut-être pas le plus intelligent. Une grande partie de la population agricole, celle des salariés en particulier, est donc délaissée et abandonnée. Le syndicat n'accepte pas cette nouvelle restructuration qui est motivée, dit-elle, par des préoccupations exclusivement financières, ce qui va mettre encore plus en difficulté les personnes précaires et notamment les saisonniers, dont nombreux d'entre eux d'ailleurs ne maîtrisent pas bien le français et connaissent aussi une barrière technologique, ce qui pénalise l'accès à leurs droits. Sont également mentionnées les personnes âgées hein, qui bénéficient actuellement des services à la personne, par exemple par le biais d'associations créées plus de 50 ans en arrière par la MSA, ils seront encore davantage impactés. C'est pourquoi dans ce communiqué, la CGT exige une continuité de l'accueil physique dans toutes les agences locales de la MSA du Languedoc. Et très prochainement aura lieu la prochaine Assemblée Générale de la MSA. Et dans cette Assemblée Générale se mettra en place le nouveau conseil d'administration issu d'élections qui auront lieu au mois de mai. Donc la CGT entend bien défendre de tout son poids ce principe de proximité qui, dit-elle, est constitutif de sa raison d'être, et les élections des délégués MSA qui vont se dérouler donc du 5 au 16 mai vont certainement être l'occasion de discuter de ces problématiques plus en profondeur. Une autre suppression, c'est le Pass Rail, mais cette fois-ci, c'est sûr. Le Pass Rail, c'est un abonnement mensuel qui a été lancé en 2024 et qui permet aux jeunes de voyager en train, quasiment en illimité pendant l'été. Eh bien, il ne sera pas reconduit en 2025. C'est ce que vient d'annoncer le ministère des Transports à l'AFP, confirmant là une information à la base divulguée par les Échos. Le ministère des Transports accuse un résultat final mitigé, avec seulement un tiers de billets vendus par rapport aux prévisions, dit-il. Le contexte budgétaire actuel ne permet pas de prolonger cette expérimentation conjointe de l'État et des régions qui n'atteint pas sa cible, explique-t-il. Donc visiblement, ça leur coûte trop cher. Il faut savoir que le Pass Rail était vendu 49 euros par mois, c'était au mois de juillet et août dernier, et il permettait donc à des jeunes de 16 à 27 ans de voyager de manière illimitée sur des lignes régionales, TER et Intercité, pas sur les TGV donc, que ce soit Inouï ou Ouigo. Ce pass s'était quand même vendu à 235 000 exemplaires lors de l'été 2024, ce qui est quand même un joli chiffre pour une première année, mais le gouvernement espérait lui en vendre 700 000. C'était un bilan qui avait été présenté en septembre dernier par le ministère. Cette mesure a été promise par Emmanuel Macron. Elle a été annoncée en septembre 2023. Elle a coûté 15 millions d'euros, financée à 80% par l'État et à 20% par les régions, qui sont les autorités organisatrices pour les TER. Plusieurs de ces régions avaient d'ailleurs été réticentes à parrainer l'initiative avant de s'y rallier finalement. Par exemple, la région Île-de-France, elle était restée en dehors de ce dispositif puisqu'elle a un pass Navigo qui coûtait à l'époque 86,40 euros par mois. D'autres transformations plus structurelles doivent être menées, le développement de l'offre, l'amélioration de la qualité de service, a expliqué le ministère des Transports ce 24 avril. Par ailleurs, dit-il, les régions sont libres de proposer et le font déjà pour beaucoup une tarification spécifique pour les jeunes et encourager le recours au TER. C'est ce qu'ils ont détaillé. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils disent que ça n'a pas marché. Enfin, ça leur coûte de l'argent, mais s'ils n'en vendent pas trop, a priori, ça leur fait pas dépenser beaucoup. J'ai un petit peu du mal à suivre la logique.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
La terre a tremblé hier à Istanbul, en Turquie, avec un séisme de magnitude 6,2 qui a créé la panique dans la plus grosse ville de Turquie. La ville a été touchée par plusieurs secousses hein, hier. Aucun mort n'est à déplorer, mais des scènes de panique ont pu être observées et dans cette ville qui est quand même connue pour des risques sismiques très importants. Par ailleurs, au moins 151 personnes ont été blessées dans la panique, hein, pas à cause d'effondrement, mais aucune n'a vu son pronostic vital engagé, expliquent les médias turcs. Certains habitants, par exemple, ont sauté des fenêtres de leur immeuble de peur qu'il ne s'écroule sur eux. La peur qui s'est emparée donc, des habitants d'Istanbul s'explique par le fait que ces dernières années, qu'ils soient bombardés d'avertissements en ce moment concernant un possible séisme de grande ampleur, le Big One qui menace la ville d'Istanbul. Mais cette panique s'explique aussi par la nature même de ces secousses. Ce sont en effet des secousses qui se sont produites pas loin de la côte de Silivri. On est en mer de Marmara, donc juste en dessous d'Istanbul. Et ces secousses, même si elles peuvent sembler peu importantes, leur localisation a amplifié la sensation de mouvement, ce qui a incité de nombreuses personnes à évacuer leur immeuble et à se rendre dans la rue en prévision d'un nouveau éventuel séisme. Beaucoup de personnes en fait s'inquiétaient de savoir s'il ne s'agissait pas là d'un petit séisme en avant-goût du grand et si celui-ci n'était justement pas sur le point de se déclencher. Istanbul et sa région comptent parmi les zones les plus actives sur le plan sismique et c'est l'un des lieux qui risque le plus de subir un énorme séisme dans les années qui arrivent. Cette ville est en effet située à seulement 20 km de la faille nord-anatolienne et les habitants en sont bien conscients. Et d'ailleurs, on se rappelle que le sud du pays a été ravagé par deux énormes tremblements de terre en 2023 qui avaient fait plus de 55 000 morts. Pour l'instant, les écoles de la ville ont été fermées, les services de secours sont mobilisés et pour l'instant, les autorités turques préconisent de ne pas rentrer dans les bâtiments endommagés. Une nouvelle alerte de l'ONU sur la situation catastrophique à Gaza. Selon l'ONU, la faim s'étend de manière délibérée. Cela fait 50 jours aujourd'hui qu'aucune aide humanitaire de quelque nature que ce soit n'a pu entrer à Gaza, en raison des restrictions imposées par Israël, ce qu'a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Les Nations Unies dénoncent donc par la voix de son porte-parole les conséquences horribles pour la population d'un tel blocage. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires n'a pas pu amener de nourriture, ni de carburant, ni de médicaments, ni aucun autre produit vitaux à Gaza depuis quasiment 2 mois, et même l'accès à l'eau potable est compliqué. Le blocus et la privation totale d'aide humanitaire est une vieille demande des fascistes israéliens. Des colons avaient d'ailleurs organisé eux-mêmes des blocages devant le seul point d'entrée de Gaza, ce qui a empêché les camions de pénétrer. Selon le porte-parole de l'ONU, les réserves alimentaires ont atteint un niveau dramatiquement faible. Les stocks de médicaments et de vaccins touchent à leur fin. Des médecins palestiniens avaient déjà alerté sur le fait qu'ils avaient dû amputer des enfants sans anesthésie, faute de produits disponibles. Le porte-parole Stéphane Dujarric parle d'un système de santé proche de l'effondrement et il rappelle que la famine menace. Par la voix aussi de Philippe Lazzarini, qui est le directeur de l'Union pour les réfugiés des Nations Unies, il explique lui aussi une fois de plus en dénonçant cette situation sur le réseau social X. Il explique que 2,4 millions de Palestiniens sont menacés d'insécurité alimentaire. Selon lui, les autorités israéliennes exploitent l'aide humanitaire comme une monnaie d'échange et une arme de guerre, dans le but d'imposer une punition collective aux résidents de l'enclave palestinienne que ce même M. Lazzarini désigne maintenant comme une terre du désespoir. Malgré la mobilisation donc, des agences humanitaires de l'ONU et de leurs partenaires, près des 3000 camions chargés de vivres, de médicaments ou d'autres biens essentiels sont disponibles, mais ils attendent toujours une autorisation pour pouvoir rentrer dans l'enclave de Gaza. Et enfin, toujours dans ce communiqué de l'ONU, il est précisé que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées ces dernières semaines et les attaques qui visent les travailleurs humanitaires se multiplient à nouveau. Par ailleurs, a été notée aussi la destruction d'engins lourds essentiels, des tractopelles, ce mardi, suite à des frappes aériennes israéliennes, ce qui a paralysé les opérations de secours en ce moment même et rendant notamment encore plus difficile l'accès aux quelques 11 000 corps qui sont encore emprisonnés sous les décombres.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Aux États-Unis, les petits patrons américains poursuivent Donald Trump en justice. C'est l'association des petites entreprises américaines ainsi que 12 États des États-Unis qui poursuivent Donald Trump en justice, notamment pour sa hausse des taxes douanières qu'il juge abusive et illégale, puisque selon la loi, le président n'a le droit de faire ces hausses que s'il y a un danger grave et imminent. Les 12 États concernés sont New York, l'Arizona, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, l'Illinois, le Maine, le Minnesota, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l'Oregon et le Vermont. Dans le journal Le Monde, on lit par ailleurs que les manias de la tech pourraient eux aussi se retourner contre Donald Trump. En effet, si l'illégalité de nombreuses décisions du président américain laissait jusqu'alors de marbre ses alliés de la Silicon Valley, les chefs des GAFAM et autres start-up mondiales, ceux-ci sont désormais effarés par ce que leur coûte sa politique commerciale. Alors même si du côté de la Maison-Blanche, ce mardi, à travers diverses déclarations, on a semblé prendre en compte les mauvais sondages et le chaos boursier, surtout, qui continue de se déployer suite aux annonces et aux revirements de situation de Donald Trump sur les douanes, sur les taxes douanières. Eh bien, malgré cela, notamment la Maison-Blanche a démenti le projet de limoger le président de la Fed, Jérôme Powell, en reconnaissant notamment que les droits de douane sur les produits chinois ne pouvaient pas rester à ce niveau et qu'ils allaient les abaisser. Le doute reste palpable, il s'est installé. Et je vous parlais des sondages, hein. Trump plonge dans les sondages, il est très, très, très critiqué sur l'économie et l'immigration. Et c'est en général un petit moment où on prend la température de la popularité d'une politique aux États-Unis 100 jours après l'élection. Dans les enquêtes d'opinion, donc, Donald Trump a fait moins bien que Joe Biden au même moment de sa présidence, donc il y a 4 ans. On approche du 100e jour à la Maison-Blanche de Donald Trump et les Américains semblent peu convaincus de la capacité de leur président à combattre l'inflation et à relancer l'économie, ce qui était quand même ce grâce à quoi une partie de la classe populaire a voté pour lui. C'est un sondage réalisé par Reuters et Ipsos. Pour couronner le tout, la semaine dernière, il a encore menti face caméra, hein, mais cette fois-ci sur les prix des aliments, notamment l'essence, les produits d'épicerie ou les œufs, hein, qui sont en pénurie et à des prix prohibitifs aux États-Unis. Hein, je crois qu'il y a des Américains qui ont peint des patates pour Pâques. Eh bien, la semaine dernière, Donald Trump a à la télévision menti sur le prix de tous ces produits en disant qu'ils étaient revenus à des niveaux corrects, sauf qu'aucun chiffre ne venait corroborer ces informations et les médias se sont empressés de relever la supercherie, notamment CNN. Il utilise évidemment ces mensonges répétés pour tenter de minimiser les craintes généralisées selon lesquelles ces droits de douane sont en train d'alimenter l'inflation et de plonger le pays dans une grave récession.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On va s'intéresser à la politique de déforestation au Brésil liée à cause du géant Casino, le groupe Casino, qui aurait donc, selon un rapport qui vient d'être publié, causé la déforestation de plusieurs dizaines, voire de centaines de milliers d'hectares au Brésil. On parle d'une période allant de 2018 à 2023. Et le but de cette déforestation, eh bien, c'est la production de viande de bœuf. C'est environ plus de 500 000 hectares. Hein. Ça serait l'ampleur de la déforestation, selon un rapport qui a été publié ce 23 avril par le ICV, l'Instituto Centro de Vida. C'est une ONG spécialisée dans l'analyse des dégâts éco-environnementaux pour les chaînes d'approvisionnement en viande et en soja. Ce chiffre est a priori en plus sous-estimé, on est à minima. Hein. Les coupes pourraient s'étendre jusqu'à 50 fois la taille de Paris, soit la perte annuelle environ de 87 000 hectares de végétation naturelle, hein, de la forêt et de la savane d'Amazonie. Tout cela donc provoqué par le propriétaire des enseignes Franprix, Naturalia ou Monoprix pour les citer, donc appartenant tous au groupe Casino. Cette déforestation aura en effet eu lieu alors que le groupe Casino était tenu d'appliquer son devoir de vigilance dans la région. Ce devoir de vigilance oblige les grandes entreprises à prévenir les risques environnementaux et sociaux liés à leurs activités. Ainsi, jusqu'à 2022 et 2023, le groupe Casino assurait le contrôle effectif de deux sociétés locales, à savoir Assaí, qui est une enseigne de vente de gros, un genre de métro, et le Grupo Pão de Açúcar, GPA, filiale de Casino. Or, dès 2019, un rapport de l'ONG Envolver estimait que 56 000 hectares avaient été déforestés par des fermes qui approvisionnaient Casino. Cette entreprise est d'ailleurs depuis cette date visée par une plainte qui a été déposée par 11 ONG et associations autochtones brésiliennes devant le tribunal judiciaire de Paris pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance. Le rapport qui vient d'être publié rajoute donc une couche à ce dossier et il dévoile que la déforestation provoquée par les activités du groupe serait encore plus importante que celle qui avait été évaluée en 2019. Alors pour arriver à ces chiffres, hein, c'est pas facile et c'est notamment la docteure en sciences de la terre Raquel Carvalho qui a essayé d'estimer les coupes d'arbres liées à la chaîne d'approvisionnement du groupe. Elle a croisé des données récoltées localement pour évaluer notamment les volumes de viande qui ont été commercialisés en Amérique du Sud par cette enseigne, ce qui représente 573 000 tonnes de viande bovine sur 5 ans, donc entre 2018 et 2023. En partant de cette estimation donc des tonnes de viande, elle s'est appuyée sur la productivité moyenne des pâturages brésiliens pour essayer de retrouver des surfaces donc, de pâturage qui ont été nécessaires à la production de cette viande. Et ainsi, c'est une estimation, une grosse fourchette, hein, on est entre 106 000 et 526 000 hectares qui auraient été détruits en lien avec cette chaîne d'approvisionnement, donc en viande de bœuf. Une large fourchette, hein, due en partie au manque de transparence de ce géant de la grande distribution, notamment la chercheuse pointe l'absence d'informations qui a été transmise par les deux entreprises GPA et Assaí, donc les entreprises locales, sur la localisation de ces fermes, sur la superficie des pâturages, sur les modes de production de la viande et le flou des chiffres qui est présenté par Casino. En tout cas, l'Institut Centro de Vida a sollicité Casino à l'automne dernier pour lui faire part de ses résultats et lui demander des éclaircissements. L'enseigne a refusé de répondre sur le fond en disant qu'elle faisait tout ce qu'il fallait dans les règles. Et par ailleurs, le journaliste de Reporter qui a donc fait cette synthèse a sollicité le groupe Casino, mais il n'a pas souhaité commenter cette étude qui tisse donc le lien entre ses activités et la déforestation au Brésil.
L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
On va parler encore de déforestation, mais cette fois-ci avec peut-être une petite conséquence positive. C'est en Gironde qu'est révélé que les incendies de 2022, donc, ont ravagé des énormes parcelles de pins maritimes plantées de manière industrielle. On est sur de la monoculture dans les landes, dans le sable de la Gironde. Eh bien, ce bouleversement environnemental a permis le retour d'un petit oiseau patrimonial. Il s'agit du courlis cendré. La présence de cet oiseau remet donc en question la gestion forestière du territoire. Encore faudrait-il que quelqu'un en ait quelque chose à faire. En tout cas, l'éclaircissement du paysage qui a eu lieu suite à ces incendies, ça a ouvert des larges prairies, des incendies qui ont ravagé les forêts landaises, fait le bonheur de ce petit oiseau. C'est un petit échassier au long bec qui vit dans les zones humides et maritimes, parfois jusqu'à 30 ans. Sur le plateau landais, donc cette espèce patrimoniale, c'était raréfié, elle avait disparu en même temps que son habitat, qui a été drainé, puisque les forêts ont permis d'enlever l'eau de cette zone marécageuse, et recouverte de pins. Ça fait plus d'un siècle et demi que cette région a été ainsi replantée, notamment pour alimenter une énorme filière en bois. 7400 hectares de parcelles forestières incendiées ont été autour de la ville de Bélier, on est dans le sud de la Gironde, et sur toute cette surface, le courlis cendré n'avait pas été aperçu depuis plusieurs décennies. Et ainsi, surprise et joie l'an dernier, lorsque justement la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux Aquitaine, une de ses salariées a découvert par hasard 3 individus de cette espèce, au cours d'une étude justement sur le retour de la biodiversité suite aux incendies. Il s'appelle Nicolas Mokwenko, il est chargé de mission de l'université à LPO Aquitaine, et il explique qu'on ne cherchait pas forcément cet oiseau, mais que cette année, vu qu'ils en ont trouvé 3 par accident, l'association a recentré ses efforts d'observation sur le courlis cendré dans les zones incendiées. Et il explique qu'il paraît donc, si on en écoute les anciens, qu'avant, dans cette lande, on l'entendait partout avec son cri particulier. Les Landais faisaient même des omelettes de Pâques avec les œufs de courlis. Dans les Landes de Gascogne, la population nicheuse de ces courlis cendrés était estimée avant les incendies à moins de 20 couples, d'après ce naturaliste. Globalement, donc, l'état des populations de l'espèce n'était pas satisfaisant. D'ailleurs, en août 2024, c'est le ministère de la Transition écologique qui avait renouvelé la suspension de la chasse du courlis cendré jusqu'au 30 juillet 2025 pour permettre aux rares individus et couples de survivre. Au niveau européen, les effectifs de cette espèce ont diminué de moitié depuis 1980. Le retour de cet oiseau, donc, ainsi que d'autres espèces patrimoniales des landes humides, par exemple la fauvette pitchou, la cisticole déjon ou le pipite rousseline, eh bien, le retour de ces oiseaux amène forcément sur l'autre question, sur la gestion forestière, puisque dans cette région, la forêt doit avant tout rester productive, il ne peut pas y avoir de temps mort, et même si ça fait plaisir, les parcelles incendiées sur lesquelles on a vu ces espèces faire leur retour ont depuis déjà été replantées pour qu'elles retrouvent leur aspect d'avant, avec des pins qui poussent en moins de 20 ans pour alimenter une filière bois toujours plus gourmande. En 1949, d'ailleurs, il y avait déjà eu de gigantesques incendies, qui avait aussi permis un retour du courlis cendré. C'était à l'époque des naturalistes qui avaient déjà documenté cela. Et la forêt avait donc retrouvé sa fonction première de productivité, refermant donc rapidement ses habitats ouverts qui permettent à ces espèces d'y nicher. Dans la région, 92% de la forêt est privée, et ça appartient à près de 59 000 propriétaires sylviculteurs, d'après le FIBOIS, qui est l'interprofessionnel de la filière forêt-bois. Économiquement, donc, cette industrie pèse lourd et fait vivre une grande partie de la population. Ça représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors, du côté justement de la protection de la biodiversité, c'est le parc naturel régional des Landes de Gascogne qui tente d'engager avec une dizaine de sylviculteurs une réflexion sur l'évolution possible de pratiques forestières qui pourraient permettre à la biodiversité patrimoniale de se réinstaller sur ce plateau. Il faudrait par exemple ne pas trop drainer les sols, remettre des feuillus en lisière de parcelles, avoir différentes classes d'âge d'arbres dans les parcelles. Et c'est William Caudron qui est chargé de mission forêt et biodiversité pour ce parc naturel régional qui donne d'autres pistes. On pourrait pérenniser des landes humides qui ont disparu lors de l'assainissement du plateau landois avec des zones Natura 2000 ou des réserves naturelles sensibles. Ces espaces seraient même multi-usages car ouvrir le milieu est généralement un outil anti-propagation en cas d'incendie. Et oui, des bonnes idées, il y en a. Il suffit quand même d'essayer de trouver des gens pour les appliquer.
Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Allez, si vous avez envie de vous lever tôt quand même, eh ben demain matin, ça peut valoir le coup, puisque dans le ciel, vous verrez la Lune, Vénus et Saturne juste à côté, et ça fera un joli smiley dans le ciel, puisque la Lune aura son croissant et que les deux étoiles feront donc les yeux. Ça se passe juste avant que le soleil se lève, et voilà, ça se dispose d'une petite configuration triangulaire pour créer un visage souriant. La Lune sera éclairée environ 8% seulement. Elle apparaîtra donc comme un croissant latéral, rappelant la forme d'un sourire. Et les yeux, je vous l'ai dit, seront représentés par les planètes Vénus et Saturne. Un petit peu d'astronomie pour retrouver le sourire. Et on se quitte là-dessus. Je vous propose d'écouter un morceau lunaire qui s'appelle « Un zourné ». C'est du groupe Parranda La Cruz qui s'est produit ce week-end au Festival Chap. Et c'était magique. Allez, un petit peu de Venezuela et de l'île de la Réunion mélangés pour nous redonner un peu de courage à l'ouvrage. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Et pas loupé là,
attendez qu'on papa finale.
Pas loupé là.
moi mais à pas, oh t'es à pas, moi mais à pas.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.